Radio Stable.
Morning edition from NPR.
Es un santín de la house.
Radio Resonate Paris.
Lo que se reproduce aquí en la radio.
France Inter, le 18-20.
Et jusqu'à 19h, un jour dans le monde, escale reportage au Bénin, en Afrique, un camion remorque qui passe dans des villages pour initier les écoliers à l'informatique. Sous les radars de l'actualité, avec Amélie Perrier, on ira à Moscou, Milan et puis l'Islande et l'Eurovision. Comme tous les lundis, Trump saison 3 avec Grégory Phillips en direct à Washington, le monde à l'envers, Cyril Sauvageau, le cas Orban. Le Premier ministre hongrois divise la droite européenne. Tout de suite, l'Algérie.
Pierre Veil, un jour dans le monde.
Abdelaziz Bouteflika a donc confirmé sa candidature à la présidentielle algérienne du 18 avril prochain, mais il promet, s'il est élu, une présidentielle anticipée ensuite, et sans lui, il ne sera plus candidat. Mohamed Sifaoui, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste du monde arabo-musulman. Vous publiez aux éditions du CERF « Où va l'Algérie et les conséquences pour la France ?». Votre livre, sur près de 400 pages, décrit l'histoire politique de ce pays depuis l'indépendance. Je vous cite, vous parlez de la mauvaise gouvernance, l'absence de démocratie, la corruption en Algérie. Vous écrivez « Là-bas, c'est un art de vivre ». Et vous ajoutez « Ce régime a érigé la veulerie en qualité dans une voyoucratie qui ne reconnaît ni mérite ni honnêteté. L'Algérie a été livrée à la rapine ». Alors pour ce livre, vous avez contacté des responsables algériens, certains en activité, d'autres en retrait. On va y revenir, mais d'abord, votre réaction à cette annonce d'Abdelaziz Bouteflika. Je me présente, si je suis réélu, je m'en irai. Au bout d'un certain temps, il y aura une présidentielle anticipée. Comment interprétez-vous cette annonce ?
Pardon de le dire ainsi, parce que je vais finir par apparaître comme finalement un pamphlétaire, ce que je ne suis pas, même si je dis les choses clairement et franchement. La dernière annonce de Bouteflika est totalement, liée à ce qu'est le personnage, l'autocrate. C'est une énième manœuvre dilatoire qui vise à tromper à la fois le peuple algérien, la communauté internationale et tous ceux qui ont cette naïveté de croire ce que peut dire Bouteflika, qui depuis 1962, lorsqu'il apparaît sur la scène publique comme jeune ministre de la jeunesse et des sports, c'est quelqu'un qui a toujours excellé dans l'art de l'intrigue, de la manipulation, des coups tordus. Ce sont des choses que j'avais révélées dans un précédent ouvrage qui est sorti en 2011, Bouteflika, ses parrains et ses larbins, et qui a été, tout le monde l'a vu, ses traits de caractère confirmés par une note de la DGSE, les services français, déclassifiée, qui a été publiée par nos confrères de l'Obs.
Mais alors, Mohamed Sifaoui, vous n'y croyez pas? Vous pensez que Abdelaziz Bouteflika va laisser le pouvoir s'il est réélu et qu'il y aura une élection présidentielle anticipée?
Bouteflika est venu en 1999, c'est d'ailleurs le fait de l'avoir dit très tôt ou peut-être trop tôt qui m'a valu tous ces problèmes avec le régime algérien, puisque je ne peux pas rentrer en Algérie depuis 20 ans. Ce régime, ou plutôt ce personnage, Abdelaziz Bouteflika, quand il arrive en 1999, il arrive avec la ferme intention d'installer une présidence à vie. Donc, première étape, étant donné que la Constitution lui permettait de briguer que deux mandats, il viole la Constitution dès 2008 pour pouvoir briguer un troisième mandat en 2009. Ensuite, malgré l'AVC qu'il subit et malgré le fait qu'il est atteint dans ses capacités, dans ses facultés cognitives, ce qui ne lui permet pas, au regard de la médecine, d'exercer ses fonctions de président, il brigue quand même un quatrième mandat. Et là, alors qu'il est dans une situation pathétique, même s'il est lucide, il est encore capable de dire « je peux rentrer chez moi ». Il n'est pas capable d'exercer son métier, il n'est pas capable de parler comme vous et moi, il n'est pas capable de rédiger une lettre, il n'est pas capable de prendre rapidement des décisions.
Mais est-ce qu'il est capable maintenant de laisser le pouvoir dans un an, deux ans?
Je ne pense pas un instant que Bouteflika soit capable de laisser le pouvoir de lui-même. Il y a deux raisons qui pourraient l'amener à laisser le pouvoir. C'est la mort et par ailleurs... s'il y a l'arbitre actuel, en l'occurrence Ahmed Gaït Salah, le chef d'état-major de l'armée, s'il prend la décision de lâcher, parce que le chef d'état-major de l'armée algérienne est en train de jouer aujourd'hui le rôle d'arbitre. Et c'est lui qui le soutient, on pourra en reparler si vous voulez, avec d'autres personnages alors, évidemment du régime.
Justement, Mohamed Sifaoui, dans ce livre « Où va l'Algérie ?», vous évoquez l'histoire du pouvoir dans ce pays. Aujourd'hui, d'après ce que vous savez, d'après les contacts que vous avez, comment fonctionne le pouvoir ? Qui dirige ce pays ?
Alors, il y a d'abord un clan présidentiel qui est composé de la fratrie Bouteflika, et notamment, même amoindri, Abdelaziz Bouteflika, qui peut dire oui ou non aux choses, même s'il ne peut pas diriger le pays. J'insiste sur cette nuance, elle est importante.
Donc il a sa conscience.
Il a sa conscience, mais bien sûr, et comment je le sais ? Vous pouvez me poser la question. C'est tout simplement parce que j'ai eu la possibilité d'accéder à certains de ceux qui l'ont approché ces derniers mois, ces dernières années, notamment des responsables français, qui ont discuté avec lui, comme on est en train de discuter, mais avec ce que m'a dit un responsable français, c'est que Bouteflika dit en 10 minutes ce que vous diriez, ou ce que moi je dirais en 20 secondes. Donc, en fait, il a sa conscience, il est aidé pour arriver à gouverner d'une main de fer, si j'ose dire, par ses frères, et notamment par son frère Saïd Bouteflika. Un autre frère, Nasser Bouteflika, est lui cadre dans un ministère, celui de la formation professionnelle, et agit un petit peu comme second conseiller de l'ombre. Il est entouré d'une petite myriade de conseillers qui lui servent, notamment une plume, des gens qui le conseillent sur les questions juridiques, etc. Après, vous avez le Premier ministre Amadou Yaya, et vous avez deux membres du gouvernement que je cite dans le livre, le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur qui jouent un rôle important. Et après, vous avez l'armée. Et après, vous avez l'armée. Et l'armée, les personnages clés, si vous voulez, qui ont aujourd'hui, je dirais, une présence importante, c'est le chef d'état-major qui est le pivot de ce régime, Ahmed Gaït Salah. Il y a le chef des services de renseignement, Bachir Tartag, et il y a les patrons de la DSI, ce qu'on appelle la DSI, la Direction de la Sécurité Intérieure, et le patron de la DDSE, le renseignement extérieur.
Et donc, selon vous, ces gens ne voudront jamais lâcher le pouvoir, et pourquoi ?
Alors d'abord, la découverte que j'ai pu faire en réalisant mon enquête et en écrivant mon livre, c'est que il y a des tiraillements au sein du système. J'ai profité finalement de ces fissures réelles qui existent et qui m'ont permis, vous avez vu la teneur de ce qu'il y a dans le livre, vous l'avez lu, ce livre a été achevé en décembre, et je ne savais pas ce qui allait se passer en février. Et si vous voyez ce que j'écris, quelque part, ce qui ressort en premier lieu, c'est d'abord ce mal-être terrible au sein du régime, c'est-à-dire que le régime va mal. Ce que l'opinion publique voit aujourd'hui, c'est le face-à-face entre le peuple algérien et son pouvoir. Ce que l'opinion publique ne voit pas, ce sont les tiraillements à l'intérieur du pouvoir. C'est ce que j'ai pu approcher plus ou moins.
Mais pourquoi il y a des tiraillements ?
Parce que, en fait, la complexité de ce régime, c'est qu'il doit passer d'une légitimité historique. Ceux qui ont combattu, soi-disant, la France coloniale durant les années 50 jusqu'en 62.
Les artisans de l'indépendance.
Se sont accaparés le régime. Enfin, ils ne sont pas tous artisans de l'indépendance, parce que les vrais artisans de l'indépendance, pour la plupart, ils ont été écartés à la faveur d'un coup d'État qui a été fait par l'armée des frontières du colonel Boumediene, flanqué alors, justement, de ce fameux Bouteflika. Et si vous voulez, ils ont gardé ce courant à l'intérieur du FLN, à garder le régime, à garder le pouvoir plutôt, jusqu'à aujourd'hui, avec quelques nuances et quelques variantes. Il se trouve que biologiquement, c'est la fin de cette légitimité, de cette légitimité historique. Abdelaziz Bouteflika, né en 1937, c'est le plus jeune de sa génération. Par conséquent, il fallait passer à une autre légitimité. Or, la seule légitimité qui reste, c'est la légitimité démocratique. Chose qu'ils ne veulent pas faire. En tout cas, que beaucoup au sein du système
parce
ne veulent
qu'il
pas.
Y a, parce qu'ils ont des intérêts financiers ?
Bien sûr, le régime algérien a, je dirais, cette fâcheuse vocation de considérer qu'il serait le seul apte à capter la rente pétrolière notamment et à la répartir selon son bon vouloir. Quand vous regardez bien l'Algérie, il y a des régimes par exemple qui ont une vision, ils ont un projet de société et ils ont une vision qu'on peut contester, qu'on peut discuter. Qui peut me dire aujourd'hui, est-ce que les Algériens eux-mêmes, je parle des dirigeants, peuvent dire quel est le projet de société qu'ils défendent. Est-ce que l'Algérie est socialiste? Non. Est-ce qu'elle est islamiste? Non. Est-ce qu'elle est anti-islamiste? Non. Est-ce qu'elle est démocratique? Non. Donc, en définitive,
Donc, il y a une caste qui défend des intérêts financiers, et vous le dites dans votre livre, vous décrivez, je cite, un pays riche, parce qu'il y a de nombreuses richesses dans le sol algérien, un pays riche et un peuple appauvri. Et c'est vrai que les manifestants disent on n'en peut plus, on n'en peut plus de ne pas avoir de travail, on n'en peut plus de s'ennuyer. Il y a un dégoût total qui est exprimé par ces manifestants qui se sentent en plus humiliés parce qu'on veut leur imposer cet homme qui n'est plus en état physique de diriger ce pays.
Mais je le dis, même si ça, en prenant le risque d'apparaître un peu comme excessif, je ne le suis pas, encore une fois. Il faut que l'opinion publique internationale, française notamment, se rende compte de la réalité algérienne. Bouteflika a tout cassé en 20 ans. Il a tout détruit. Il a détruit la société civile. Il a détruit la culture. Il a détruit le monde sportif. Il a détruit l'école algérienne alors qu'elle était déjà sinistrée. Il a détruit le monde de la médecine. Regardez le nombre de médecins algériens qui exercent aujourd'hui en France. Je ne vous parle pas des franco-algériens, je parle des Algériens médecins de différentes spécialités qui sont dans les hôpitaux français et qui tiennent certains services aujourd'hui, alors qu'ils sont venus parce qu'ils n'étaient plus capables, non pas parce qu'ils détestent leur pays, parce qu'ils n'étaient plus capables d'exercer leur métier, la médecine, dans des conditions normales.
Et vous dites qu'il y a aujourd'hui, dans ce pays, une crise morale en Algérie.
La crise morale, elle est vue constatée par tout le monde. La corruption est endémique, véritablement, et banalisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voyant que leurs dirigeants prennent ou se servent comme une véritable rapine, une partie du peuple a complètement, détruit sa propre éthique.
Certains observateurs disent que Bouteflika est toujours, cependant, respecté par une partie de la population. Est-ce que ce régime est totalement isolé ou est-ce qu'il a encore des soutiens?
Écoutez, moi, j'ai essayé de trouver des soutiens, à part des soutiens intéressés, des gens qui ont un intérêt finalement mercantile à soutenir Bouteflika, parce que Bouteflika est un régime qui paye. Je vous donne un exemple qui me concerne. Je suis un modeste journaliste, un modeste auteur, un modeste écrivain. Il y a quelques années, en 2012, j'ai sorti un livre qui s'appelle « L'histoire secrète de l'Algérie indépendante », qui a gêné le pouvoir algérien. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus monnayer, ils sont venus m'offrir de l'argent pour que je renonce à la publication de ce livre. Et ils sont venus m'offrir en contrepartie ce qui est normalement un droit, mon passeport algérien, qu'il refuse évidemment de me donner. C'est-à-dire que ça vous donne un aperçu sur ce pouvoir qui est capable de prendre en otage les propres documents administratifs d'un citoyen, de ne pas lui donner. Vous imaginez si demain vous vous mettez à critiquer Macron et que vous irez le surlendemain dans votre mairie pour sortir un extrait de naissance et on vous dit « Monsieur, non, on ne vous le donne pas ».
Mohamed Sifaoui, comment voyez-vous la suite? C'est pas facile, bien sûr, de faire des prévisions quand un pays est en ébullition. Abdelaziz Bouteflika dit donc « Je me présente », il sera sans doute élu s'il y a une élection présidentielle, mais plus tard, il y aura une autre élection, je ne serai pas candidat. Vous pensez que ça peut calmer les manifestants?
Moi, je vais vous dire, rien ne calmera, à mon sens, les manifestants. Mais au-delà, même cette sémantique, je ne l'utilise pas. Abdelaziz Bouteflika n'est pas candidat. C'est un autocrate qui est dans un processus d'auto-légitimation. Les autres candidats ne sont pas des candidats. Ce sont des lièvres ou une clientèle du régime qui a intérêt à participer à une mascarade qui n'est pas une élection. Et si vous voulez,
donc
hier,
la colère des manifestants, des jeunes, ne va pas diminuer?
Mais aujourd'hui, si vous voulez, vous avez un ras-le-bol qui est exprimé. Ouais. Les gens, il faut qu'on se rende compte, étaient capables de monter dans des chaloupes, dans des embarcations de fortune, cet été encore, au risque de mourir en Méditerranée, et avec cet espoir de regagner les côtes espagnoles ou italiennes, pour un hypothétique avenir meilleur dans une Europe idéalisée. Et même, ils vous disent, je préfère mourir en Méditerranée que vivre avec vous. Ça, c'est un slogan d'une partie de la jeunesse.
Dernière question, je rappelle le titre de votre livre aux éditions du CERF. Où va l'Algérie et les conséquences pour la France? Que pensez-vous des réactions officielles françaises en ce moment? Je cite le communiqué du Quai d'Orsay. La France prend note de la candidature du président Bouteflika. C'est quand même à minima, hein.
C'est pas très courageux. Et je dirais en définitive à notre diplomatie française, quelle est la différence entre le Venezuela et l'Algérie? Pourquoi Maduro, qui n'est pas à mes yeux un type très sympathique, est décrié à juste titre, me semble-t-il, et pourquoi Bouteflika est si épargné? Si on veut aujourd'hui s'éviter par exemple un danger réel, le terrorisme islamiste, il faut arrêter. Faire en sorte de ne pas soutenir ces autocrates qui alimentent par une politique désastreuse justement les rangs de l'islamisme.
Merci Mohamed Sifaoui d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le titre de ce livre que vous venez de publier, Où va l'Algérie et les Merci. Conséquences pour la France, aux éditions du CERF.
Merci à vous.
France Inter, Pierre Veil. Un jour dans le monde.
À suivre dans Un jour dans le monde, sous les radars de l'actualité, avec Amélie Perrier. Et puis escale reportage, on ira au Bénin, en Afrique. Comment initier des écoliers à l'informatique? Et puis, comme Jacques lundi, Trump saison 3 avec Grégory Phillips en direct à Washington. Bonsoir Grégory.
Bonsoir Pierre.
Donald Trump alors déchaîné devant ses partisans ce week-end?
Ah oui, un discours devant les conservateurs du CPAC qui étaient réunis à Washington samedi matin, et un discours qui a duré plus de 2 heures, très décousu et très déchaîné, on en parle tout de suite.
Et puis vers 18h55, le monde à l'envers, Cyril Sauvageau, bonsoir Cyril.
Bonsoir.
La droite européenne, Cyril, face à un dilemme, faut-il ou non prendre ses distances avec l'encombrant hongrois Viktor Orban?
Et le Premier ministre hongrois entend bien exploiter les divisions de sa famille politique, il pourrait même, on le verra, en tirer profit.
À 18h55, Cyril Sauvageau, le monde à l'envers. Vous aimez le rhythm and blues américain, la soul pure? Alors vous aimerez le deuxième album de Duran Jones and the Indication. Voix profonde, vibrante, cuivre, comment dire, enveloppant. Voici Morning in America.
It's still in San Diego. Can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man is but is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressman in Washington school, and I think of my
Duran Jones and the Indications, c'était Morning in America.
France Inter.
Good evening and welcome.
Je размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Amélie Perrier est avec nous dans ce studio. Amélie, sous les radars de l'actualité, les murs ont des oreilles à Moscou.
Vous vous souvenez peut-être, Pierre, de ces affiches de propagande soviétique. L'avertissement est peut-être toujours d'actualité. Le journal Vedomosti vient de publier une enquête complète sur l'espionnage de tous les habitants de Moscou par les autorités. En fait, depuis des années, la mairie rachète aux opérateurs de téléphonie mobile toutes les données sur les déplacements des moscovites. Cela apparaît dans les comptes publics, des centaines de millions de roubles, équivalent de millions d'euros. Le but, dit l'administration, est de récolter des statistiques pour élaborer les projets de transport urbain, par exemple. Alors avec la géolocalisation, les autorités repèrent votre domicile, votre lieu de travail, si vous êtes un itinérant, si vous êtes un touriste. Elle parle de géo-analytique, mais elle l'assure, les autorités, ces données personnelles sont dépersonnalisées. Chaque individu est étudié sans qu'il soit identifié. Toutefois, cela pose question aux Russes. Les opérateurs gagnent des dizaines de millions d'euros ainsi sans que les clients soient consultés.
Direction la Scala de Milan, Amélie, pilier du patrimoine culturel italien.
Où l'on donne par exemple ces jours-ci la Traviata avec à la baguette le chef que l'on connaît bien ici, Myung-Hoon Chung. La quintessence des arts italiens, d'où les réticences de certains d'ouvrir le conseil d'administration du célèbre opéra à l'Arabie Saoudite. Le prince Badr est prêt à donner 15 millions d'euros sur les 5 prochaines années. Mais l'affaire Khashoggi, le journaliste tué, vous savez, au consulat saoudien d'Istanbul, l'image détériorée de Riyad, tout cela indispose certains membres du CA. Le patron de la Scala, lui, a d'autres arguments, notamment la création d'un conservatoire dans la capitale saoudienne, la formation d'un chœur, une compagnie de jeunes danseurs, des cours de piano, de violon, sous l'autorité de l'académie de la Scala. Alors le surintendant Alexander Pereira veut croire que la création d'un conservatoire à Riyad, dans un pays sans éducation musicale, où la danse était interdite, est un projet à ne pas manquer. Outre l'avenir financier de la Scala, c'est le sort de Pereira qui se joue maintenant. Son mandat se termine l'an prochain. Et le prochain conseil d'administration, le 18 mars, s'annonce mouvementé.
Et de la musique encore, mais dans un autre style.
Pour vous parler là de l'Eurovision. Ouais, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, ce que vous entendez là, c'est le groupe qui va représenter l'Islande lors du prochain concours le 18 mai à Tel Aviv. Il s'appelle ce groupe Atari. Trois copains d'école aujourd'hui, énorme carton sur leur île. Ils ont remporté le pré-concours Eurovision ce week-end à Reykjavik. C'est du punk BDSM, bondage, sadomasochisme. Et ils se produisent harnachés dans des combinaisons de cuir. Mais ce n'est pas vraiment ça qui fait scandale. Le groupe a l'intention de chanter un morceau anti-Netanyahou. Oui, leur position de départ était de refuser d'aller jouer en Israël pour la finale, mais puisqu'il porte les couleurs de l'Islande, eh bien il propose cette chanson « La haine l'emportera ». Je vous traduis quelque part elle, « La haine l'emportera », « L'Europe s'effondrera hein, », une toile de mensonges naîtra de ses cendres unies comme un. Autre provocation, ils veulent affronter le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans un combat de glima. Alors là c'est une lutte traditionnelle islandaise, ce sera le lendemain de la finale de l'Eurovision hein, si Netanyahou accepte, et s'il gagne, ils veulent créer une colonie BDSM, donc bondage, discipline et sadomasochisme en Israël. L'affaire ne fait pas vraiment rire les organisateurs de l'Eurovision, dont le producteur qui s'est rendu en urgence en Islande. En tout cas, ce concours 2019 s'annonce déjà comme l'un des plus politisés. L'Ukraine s'est retirée la semaine dernière, à cause du conflit avec la Russie et des candidats pris en otage du nationalisme. En Italie, Matteo Salvini a voulu faire disqualifier son chanteur Mahmoud, chanteur italo-égyptien qui chantait aussi en arabe dans son morceau. Quant à la France, on nous n'oublie pas le déluge de commentaires haineux contre notre représentant Bilal Hassani.
Amélie Perrier sous les radars de l'actualité. À demain, Amélie.
À demain.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Pékin,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth, France Inter.
C'est l'escale reportage. L'Afrique au Bénin et une classe numérique mobile aménagée dans la remorque d'un camion. Elle se déplace dans les zones rurales pour former les enfants, les artisans, les jeunes déscolarisés à l'informatique et au numérique. C'est complètement gratuit. Delphine Bousquet s'est rendue à Avrancourt. C'est une vaste commune qui compte 60 villages à l'est du pays, donc au Bénin. Elle a suivi une classe d'une école primaire publique, une école qui n'a pas d'équipement informatique.
C'est en chantant que les 48 élèves de CM1 arrivent à la mairie d'Avrancou. Bien alignés, tous en uniforme kaki, ils ont marché plus d'un kilomètre d'un bon pas. Sur le parking sous d'immenses collatiers, la remorque, salle informatique, 13 mètres de long, des panneaux solaires sur le toit pour l'autonomie en énergie, à l'intérieur des tables modulables, des tabourets colorés, 9 ordinateurs portables et des ventilateurs.
Doucement, allez.
C'est la deuxième séance, les élèves se dépêchent de monter les marches comme Ambroise, 11 ans.
Quand on a dit de ranger les affaires et on va venir ici là, je suis content, très très content. Et je ris en classe et j'ai ramassé vite mes affaires, déposé dans le casier, j'ai pris mon cahier et pique et j'ai venu ici.
Pourquoi tu étais content de venir ici?
Parce que moi, je ne sais pas comment on appuie ça, je ne sais pas rien. Si on m'a dit ça, je suis content.
Avant cette initiation, seuls 4 élèves avaient déjà vu de près ou touché un ordinateur. Marie da Silveira, une des formatrices, s'adapte et parle parfois en goût, la langue locale, pour bien se faire comprendre.
C'est grâce au cerveau pour vous rappeler de tout ce que vous avez appris, c'est ça. Hein? Voilà, c'est juste pour vous dire que l'ordinateur que vous avez là, ce qu'on a devant nous, lui-même, il a un système qui lui permet de pouvoir se rappeler de tout ce qu'on fait. La mémoire de notre ordinateur est appelée disque dur. Les maillons et
à l'origine de cette classe itinérante, le Blo Lab, un laboratoire de fabrication numérique basé à Cotonou, la capitale économique, son fondateur Médarak Bayazon est parti d'un constat.
Au niveau de notre espace à Cotonou, nous avons donc remarqué qu'il y a un engouement de la population. Les gens viennent vraiment nombreux pour suivre nos différents ateliers, etc. Et donc nous avons eu la chance d'aller intervenir un peu dans quelques zones rurales et nous nous sommes rendus compte que la fracture numérique dont on parle était réellement au rendez-vous. Parce qu'on a vu des enfants, des jeunes, des étudiants, etc. dans les zones rurales qui n'ont jamais vu un ordinateur, qui ne savent pas réellement ce que c'est que le numérique et toute la valeur ajoutée qu'il peut leur apporter dans leurs activités quotidiennes.
Une association suisse, African Puzzle, a donné la remorque et quelques ordinateurs. Le reste, c'est de la récupération. D'ailleurs, pendant que la moitié de la classe travaille dans la salle, l'autre est dehors pour fabriquer un jerry. C'est une unité centrale assemblée dans un jerrycan avec des composants recyclés.
Maintenant qu'on vient de monter notre unité centrale dans ce bidon, on va le connecter et tester, non?
Oui.
Si ça ne marche pas, ça fait ordinateur?
Non.
Donc on va voir si ce qu'on a fait, ça marche ou pas, d'accord?
Oui.
Maintenant on va brancher les choses un à un. Qu'est-ce qu'on va brancher premièrement? Oui.
Souris.
La souris. Non. Ok. Toi, tu veux m'aider, on va brancher.
Ouais.
Allez, tout là-bas, tu vas nous aider à brancher.
Raoul Etchédé, l'autre formateur, explique l'utilité de ces jerrys assemblés dans des bidons d'huile de 25 litres.
C'est pour leur montrer l'intérieur de l'ordinateur, les différentes parties, pour les familiariser un peu avec ça et pour qu'ils puissent eux-mêmes monter leur propre unité centrale qui puisse leur servir d'ordinateur.
Vous pouvez prendre la carte mère d'un ordinateur, le bloc d'alimentation d'un autre, etc.
Exactement. Ça fait partie des objectifs pour que les unités centrales qu'on met au rebut ou les ordinateurs qu'on a après avoir changé de pack informatique, qu'on puisse récupérer les composants fonctionnels dedans et dès qu'on a les essentiels, on arrive à faire notre unité centrale. Parce que d'habitude, tout ce qu'on a dans les boîtes traditionnelles d'unité centrale, on n'en a pas tous besoin. Il y a beaucoup de composants commerciaux.
Très adapté quand on a peu de moyens. Même philosophie avec les logiciels. La classe n'utilise que des libres, disponibles gratuitement. Et ça a plu au secrétaire général de la mairie, Apollinaire Oussoulio.
L'idée de logiciels libres nous permet de cesser d'être plus esclaves de ce qui nous oblige chaque fois d'aller acheter ou se connecter. Moi, en tant que militant, pour ce qui est de durabilité, je ne peux qu'applaudir pour dire, et ce n'est pas seulement les enfants, nous aussi adultes, on va cesser d'être esclaves.
La formation dure un mois, à raison de 2 heures par semaine pour 5 classes. Une goutte d'eau alors qu'à Avrancou, il y a 88 écoles primaires. Guillaume Nyonlonfou, l'instituteur, est ravi que ses élèves en bénéficient. Mais après.
Nous souhaiterions que, à la longue, quand d'autres notre école des appareils, à notre ère maintenant, on ne peut rien faire sans l'ordinateur. Donc, pour ne pas être l'analphabète du troisième millénaire, il est indispensable que dans chaque école, qu'on ait ces instruments pour être au pas avec l'évolution du monde.
C'est pour ça que l'équipe du Blolab laissera quelques Jerry avant de partir, faute de pouvoir donner de vrais ordinateurs.
Malaika, la coupenda Malaika.
Voilà, reportage au Bénin de Delphine Bousquet. Et là, on entend la voix tout à fait sublime d'Angélique Kidjo. Guitare, harmonica, voilà un couple musical auquel on ne résiste pas. Il y a 12 ans, le groupe Moriarty, Jimmy.
Please come home. The grass is green and the buffaloes roam. Come see Jimmy, your Uncle Jim, and your Auntie Jim, and your Cousin Jim. Come home, Jimmy, 'cause you need a bath, and your Grandpa Jimmy is still gonna die. There's Buffalo Jim and Buffalo Jim. There's Jim Buffalo, not a didn't you know. Jim, Jimmy, Jimmy, it's your last cigarette. And there's Buffalo Piss, and it's all kinda wet. Jumbo Jimmy, you'd better hold your nose. Our roads lead to Rome with the Buffalo.
Moriarty, Jimmy.
France Inter.
I will work so hard.
Pierre Veil.
I promise you, it's going to change.
Un jour dans le monde.
18h51, Trump, saison 3, c'est maintenant, comme tous les lundis. Grégory Philippe, c'est avec nous en direct de Washington. Grégory, notre correspondant permanent dans la capitale fédérale américaine. Grégory, un président toujours assez populaire, malgré les événements de la semaine dernière, à savoir l'audition par le Congrès de son ex-avocat, Michael Cohen, et l'échec total du sommet de Hanoï avec le dictateur nord-coréen Kim Jong-un.
Oui, parce que si on regarde le sondage publié ce matin par MSNBC et le Wall Street Journal, eh bien, Pierre, on est à 46% d'opinion favorable, plus 3 par rapport à début janvier. Donc, cote de popularité toujours assez haute, finalement, pour Donald Trump. Et ce, malgré ces deux épisodes calamiteux de la semaine passée pour la Maison-Blanche, l'audition par le Congrès de l'ex-avocat Michael Cohen, et puis juste après l'échec patent du sommet de Hanoï. D'ailleurs, Donald Trump lit ces deux événements, il l'écrit sur Twitter de la part des démocrates. C'était honteux d'interroger ainsi en séance public un menteur invétéré au moment même où se tenait un sommet nucléaire très important avec les Nord-Coréens. En tout cas, Pierre, l'enquête sur une éventuelle collusion avec la Russie pendant la campagne de 2016 est loin d'être terminée parce que la commission des affaires judiciaires de la Chambre lance aujourd'hui même une nouvelle série d'investigations pour savoir si le président a tenté ou non de faire obstruction à la justice.
Un Donald Trump, en tout cas, en très grande forme. C'était samedi à Washington, Grégory, lors de la réunion annuelle du camp conservateur. Un discours de plus de 2 heures avec un président américain alors particulièrement remonté.
Oui, alors un discours extrêmement long devant une foule absolument conquise. Plus de 2 heures de discours, vous l'avez dit, durant lesquelles le 45e président des États-Unis a notamment dénoncé le penchant socialiste de ses adversaires démocrates. Et vous savez qu'ici aux États-Unis, le mot est évidemment très connoté. Un Donald Trump totalement en roue libre, je dois dire, comme il le reconnaît lui-même dans cet extrait que je vous ai sélectionné au moment où il aborde notamment les propositions pour l'environnement de ses adversaires démocrates.
You know I'm totally off script right now.
Vous savez que là, en ce moment, je ne lis plus mon prompteur.
And this is how I got elected, by being off script.
Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai été élu, en m'écartant des discours déjà préparés.
And if we don't
Et si on ne sort pas des discours établis, alors notre pays est en grande difficulté parce que nous devons le remettre sur pied. Quand je regarde ce qui est en train de se passer de l'autre côté dans l'opposition, maintenant ils nous parlent d'un Green New Deal, d'un accord sur l'écologie, c'est ça? Alors on n'aura plus d'avions, on n'aura plus d'énergie, une électricité faite avec des éoliennes. Mais quand il n'y a plus de vent, il n'y a plus de courant. Chérie, est-ce qu'il y a du vent dehors? Parce que j'aimerais bien regarder la télévision.
Voilà, Pierre, discours assez décousu, mais finalement très efficace, qui donne l'image d'un Trump prêt à en découdre dans la perspective, évidemment, de la présidentielle de 2020. D'ailleurs, si vous voulez lire ce discours, la Maison-Blanche l'a scripté. Ça fait 43 pages et 16 000 mots. Je l'ai publié sur mon compte Twitter. Vous pouvez le retrouver assez facilement.
Parfait, Grégory. Alors, à propos de l'opposition, l'élection présidentielle de 2020, ça y est, la course à l'investiture démocrate est bel et bien lancée pour savoir qui affrontera Trump en 2020. On en est, je crois, là, à une douzaine de prétendants maintenant, Grégory?
Oui, 14 exactement avec la dernière candidature en date, celle de John Hickenlooper, actuel gouverneur du Colorado. 14 candidatures donc, mais deux assez fantaisistes. Donc oui, une douzaine de prétendants sérieux, dont celui-ci, Bernie Sanders, qui a entamé sa campagne ce week-end, samedi à New York, hier à Chicago. Le rival malheureux d'Hillary Clinton en 2016 veut croire que ça y est, cette fois c'est son heure.
We are gathered here tonight.
Nous sommes réunis ici ce soir pour aller jusqu'au bout de la révolution politique entamée il y a 3 ans. Il y a 3 ans, on nous prenait pour des fous, des extrémistes. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Il y a 3 ans, nos idées étaient rejetées partout dans le pays par les démocrates. Plus maintenant. Nous avons entamé une révolution politique et maintenant, on va aller jusqu'au bout.
Voilà, Pierre, Bernie Sanders à Chicago, très en forme également. Il y a encore 2 personnalités qui ont laissé entendre qu'elles pourraient y aller. Le jeune Texan Beto O'Rourke, qu'on avait remarqué lors des élections de mi-mandat, et puis l'ancien vice-président Joe Biden. Tous les deux attendent encore un peu avant de se prononcer. On va suivre ça, évidemment, sans doute dans les prochains jours.
Grégory Phillips, Trump saison 3. Vous le disiez, Grégory, les démocrates lancent une enquête sur Donald Trump. À l'instant, le président américain vient de réagir. Pour Trump, cette enquête des démocrates, je cite, elle est bidon, mais il coopérera.
Le 18-20, Pierre Veil, sur France Inter.
Le monde à l'envers, Cyril Sauvageau. Cyril, et si Viktor Orban réussissait à chambouler la droite européenne, faut-il ou non exclure Viktor Orban? La droite européenne se déchire sur l'attitude à adopter face au Premier ministre hongrois qui multiplie les provocations vis-à-vis de sa famille politique. Viktor Orban et son parti, le Fidesz, pourraient être écartés dans les prochaines semaines du PPE, le Parti Populaire Européen. Et ça y est, on vient de l'apprendre, Cyril Sauvageau, la procédure est lancée.
Oui, difficile de dire pour l'instant quel sera l'épilogue de ce psychodrame. En tout cas, une nouvelle étape est franchie. Le PPE va bel et bien examiner cette demande d'exclusion lancée par plusieurs partis membres. L'Assemblée politique des conservateurs européens se prononcera d'ici le 20 mars pour dire si oui ou non Viktor Orban peut toujours faire partie de cette famille chrétienne-démocrate. Orban n'a jamais été si proche de la porte, même s'il n'en est pas à sa première provocation, loin de là. On se souvient de ses passes d'armes avec la chancelière allemande Angela Merkel sur les questions migratoires. Mais cette fois, le Premier ministre hongrois est allé très loin, trop loin pour certains de ses alliés, avec une campagne d'affichage au relent complotiste, campagne où il met dans le même sac son ennemi juré, le milliardaire George Soros, et le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, lui-même membre du PPE. Soros et Juncker accusés de manigancer un plan pour imposer des migrants à la Hongrie. Cette fake news, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui a donc conduit plusieurs formations à réclamer l'exclusion d'Orban.
Et de son côté, Cyril, Viktor Orban a décidé de contre-attaquer. Il s'en explique dans un entretien paru ce week-end dans la presse allemande.
Et c'est tout sauf un hasard. Si Orban a choisi de s'adresser à l'Allemagne avec cette interview au quotidien conservateur Die Welt, pour le Premier ministre hongrois, il est essentiel de conserver le soutien des chrétiens démocrates allemands, la CDU, et son allié bavarois, la CSU, un poids lourd du PPE, puisque le Spitzenkandidat, le probable futur président de la Commission, n'est autre que l'allemand Manfred Weber, issu du parti bavarois. Or, jusqu'ici, la CSU bavaroise a souvent fait preuve de beaucoup de tolérance vis-à-vis des excès de Viktor Orban. Mais cette position est-elle encore tenable? Manfred Weber est sous pression, il va devoir trancher. Mais l'interview de Viktor Orban est aussi très intéressante parce qu'il persiste et signe malgré ses menaces. Il s'en prend même ouvertement à l'aile centriste de la droite européenne, celle qui réclame son exclusion, qualifiée d'idiot utile de la gauche. Ses opposants au sein du PPE sont accusés d'être, je cite, plus proches de Macron que de la CDU.
Et tout cela fait partie d'une stratégie globale. Viktor Orban, il a pour ambition de reconfigurer la droite européenne.
Absolument, son plan de bataille est très clair. Premièrement, parvenir à rester au sein du PPE, mais on voit bien, il va devoir pour ça convaincre ses alliés. Ensuite, faire en sorte de marginaliser la frange la plus centriste. Tout ça pour bâtir à plus long terme une nouvelle alliance souverainiste en se tournant vers des partis comme la Ligue du Nord de l'italien Matteo Salvini ou encore le PiS, le parti droit et justice au pouvoir en Pologne. Ce serait un tournant politique majeure, on n'en est pas là, mais la posture hésitante des conservateurs en Europe rend cette hypothèse plausible. Jusqu'ici, la ligne du PPE a consisté à dire « mieux vaut garder Orban sous notre coupe plutôt que de le laisser prospérer à droite ». Cette ligne fait de moins en moins consensus, y compris en France. Le parti Les Républicains n'est pas très au clair, hein. Laurent Wauquiez a toujours soutenu jusqu'ici Viktor Orban, d'autres comme Valérie Pécresse sont plus critiques. La tête de liste LR aux européennes, François-Xavier Bellamy, incarne à lui seul toutes ces hésitations. D'un côté, il se dit plutôt Juncker que Orban, et de l'autre, il appelle au dialogue. Il estime hier encore que Viktor Orban fait partie intégrante du PPE. Allez comprendre.
Cyril Sauvageau, le monde à l'envers, à demain soir, Cyril.